Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir chers fidèles auditeurs de la VOA, bienvenue dans À votre avis, votre émission interactive qui est aujourd'hui réalisée par Fatou Ali Massi, mise en onde par Cornelius Trésor et présentée par Nanit Talani. Ce soir, nous parlons de l'éducation en Afrique. En République démocratique du Congo, le gouvernement a mis une centaine de bus à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur pour assurer le transport des étudiants. Au Congo-Brazzaville, les étudiants perçoivent une bourse mensuelle à certaines conditions. Au Sénégal, le gouvernement paye des allocations aux étudiants des institutions publiques, privées et de la diaspora. Et puis au Togo, des milliers d'élèves bénéficient du programme des cantines scolaires. Qu'en est-il de votre pays? Quelles sont les conditions d'études ou d'apprentissage là où vous vivez? Quelle aide le gouvernement apporte-t-il aux élèves et étudiants? Et que faudrait-il faire surtout pour mieux aider les étudiants et élèves qui sont l'avenir de toutes les nations? Ceux qui ont laissé leurs commentaires et leur numéro de téléphone sur la page Facebook de VO Afrique, nous allons les appeler tout à l'heure. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez toujours participer à l'émission en appelant au plus 1 202 205 26 33 plus 1 202 205 26 33. Notre premier intervenant de cet après-midi, c'est Alphonse Boaki. Nous allons donc en République démocratique du Congo. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir Madame Nanit Talani.
Alors, vous reconnaissez que les élèves des institutions scolaires publiques depuis la première année bénéficient de la gratuité de l'enseignement en RDC?
Oui, effectivement, c'est depuis que le président en place, donc M. Félix Tshisekedi, est devenu ce qu'il est, donc président de la République, il a mis en place cette gratuité. Il a rendu concrète cette gratuité. Donc, de première année primaire jusqu'en sixième année primaire, donc les enfants du secteur public bénéficient de cette gratuité. Mais seulement, on trouve une surpopulation des élèves dans les salles de classe. Donc,
que faut-il faire alors?
Pardon?
Que faut-il faire alors pour améliorer les conditions des élèves et étudiants RDC?
Il faut proliférer, créer des écoles, multiplier des écoles un peu partout, à travers le pays. Vous savez, quand on multiplie les écoles là-bas, on rend autonome chaque cité, chaque quartier. Vous savez, il y a déjà des élèves ou des étudiants qui quittent leur quartier pour aller étudier à longue distance. Mais lorsque on crée des écoles dans les quartiers, dans les cités, au village, vous savez que les élèves ne vont pas se déplacer. Et cela réduit les risques d'accident, par exemple, en ville, lorsque il y a des embouteillages, beaucoup d'embouteillages ici, hein. Ça réduit le temps de retard d'arriver aux écoles, que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les étudiants, pour les professeurs. Donc, il faut désengorger les salles de classe en disséminant les écoles partout à travers le pays. Et, deux, vous savez que si on veut avoir une formation de qualité, il faut rendre les conditions de travail faciles aux enseignants et puis leur donner de meilleures conditions de vie. Vous savez que les enseignants informés, les formateurs informés ne peuvent pas donner de meilleurs enseignements aux élèves. Donc il faut assurer leur survie et assurer aussi leur donner des moyens de travail adéquats.
D'accord, merci beaucoup Alphonse, merci, nous savons que vous avez beaucoup à dire, mais il y a d'autres auditeurs qui nous attendent, tels que Omar Québec Hassan. Bonsoir Hassan.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Donc, quelle est la situation dans votre pays?
La situation est celle de l'Afrique, parce que le continent africain, il a le même problème souvent, hein, parce que même si on généralise, c'est souvent les cas. Donc, chaque pays africain, nous avons les mêmes problèmes.
Et vous êtes dans quelle ville, s'il vous plaît?
Actuellement, je suis en Éthiopie.
D'accord. Merci.
OK. Merci. Ok. Alors, en fait, nous, l'éducation en Afrique, il y a un problème parce que la formation et le marché du travail ne se conviennent pas. Donc, il faut aussi de réformer, de trouver un point de cohérence entre le marché du travail et la formation qu'on donne souvent à l'université, au lycée et au collège. Et il faut aussi d'apporter en fait, plus des équipes pédagogiques, par exemple. Par exemple, lorsqu'on regarde dans le continent africain, les classes, souvent, on utilise l'ancienne méthode, le tableau et la craie. Alors qu'actuellement, on utilise le numérique partout dans le monde, en Europe et en Amérique du Nord. Donc, c'est réformé. Si on fait, par exemple, on donne plus d'opportunités et plus d'importance à l'éducation, on est en train de former et de donner plus d'avenir à toutes les générations du continent africain. Donc, il faut essayer d'apporter plus d'outils informatiques, surtout dans le domaine de la pédagogie. Il faut revaloriser aussi le métier de l'enseignant et il faut revaloriser également la morale des étudiants, des élèves et étudiants. Parce que avant, on donnait des bourses, actuellement, il n'y a plus de bourses. Certaines personnes ou certains élèves se sont désescolarisés parce qu'ils n'ont pas les moyens de transport, parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Donc, les États doivent voir et nous de regarder d'autres domaines et en fait d'accélérer la corruption dans le sphère politique. Il faut aussi d'apporter l'éducation comme prioritaire. Et ça, c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est l'avenir de l'Afrique.
Voilà. Alors, Omar, vous soulignez un point très important, vous soulignez l'incohérence entre les formations, donc l'école et le marché de l'emploi. Quelles sont les conséquences de cette situation actuellement?
On voit déjà les conséquences. Le taux de chômage est important sur le marché du travail. Par exemple, on forme des gens dans les périodiques, par exemple, les ressources humaines, l'histoire, la géographie, alors qu'on a besoin de techniques. Par exemple, la formation professionnelle n'est pas développée. Alors sur le marché, lorsque la personne devient littéraire, par exemple, il sort de ressources humaines, journalisme et autres, il n'a pas en fait un lieu de poche. Donc il n'y a pas une consommation. Le marché ne consomme pas ces sortes de personnes, en fait, ces personnes qui sortent de l'université en étant littéraire ou dans le journalisme et autres. Donc, le continent africain se développe. Donc, on a besoin de développer la formation professionnelle pour qu'il y ait des techniciens, par exemple des ingénieurs, des techniciens en bâtiment et autres. Donc, il faut essayer de faire une cohérence entre les besoins du marché africain et la formation qu'on donne aux élèves et aux étudiants de l'université.
Nous vous remercions beaucoup. Bonne soirée à Addis Abeba en Éthiopie. Omar, il a noté l'incohérence entre la formation et le marché de l'emploi. Est-ce le même constat que Dr Deimono Deimono a fait? Il est au Tchad, plus précisément à N'Djamena. Bonsoir, docteur.
Oui, bonsoir aux auditeurs de la VOA.
Est-ce que vous avez aussi remarqué qu'il y a une inadéquation entre le marché de l'emploi et les formations que les écoles donnent, vous aussi?
Bien sûr, c'est facile à constater. Moi, je parlerai pour le Tchad. Vous verrez que la plupart de ceux qui vont entrer dans les universités, ils finiront par terminer leurs études et finalement, ils se retrouveront sans emploi. C'est ce qu'on appelle souvent ici diplômé sans emploi. Mais je pense que quelqu'un qui a un diplôme, c'est pas quelqu'un qui cherche un emploi, mais c'est plutôt quelqu'un qui mérite un emploi. Mais moi, en fait, ce que je voudrais dire à propos du sujet aujourd'hui pour l'enseignement, c'est qu'il faut comprendre une chose, hein, c'est que l'enseignement, moi, je crois que c'est la clé du développement. Si j'étais un gouvernant, je souhaiterais vraiment que tous ces gouvernants investissent dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut former des gens. Même s'il faut, après que la formation est terminée, c'est à eux de se débattre en fonction de la théorie qu'ils ont appris pour voir comment ils vont gagner leur pain, au moins c'est former les gens. Alors moi, je parle pour le Tchad, par exemple. Nous, on n'a pas d'université. Certains bâtiments sont construits, mais ce n'est pas ça qu'on appelle une université. Un centre universitaire, ça a besoin des amphithéâtres, ça a besoin d'une bibliothèque.
Et vous n'avez pas d'amphithéâtre au Cameroun? Vous n'avez pas d'amphithéâtre au Tchad?
Il y en a, mais vous allez trouver, par exemple, une seule faculté qui a un seul amphithéâtre, un amphithéâtre de 500 étudiants. pour 1000, 2000. Et je voulais même parler de ce problème. En fait, il faut comprendre aussi ce qu'il y a un pléthore d'étudiants. C'est-à-dire que le nombre d'étudiants est largement supérieur aux infrastructures qui sont disposées pour les étudiants. Et ça, c'est véritablement pas un problème. En matière d'enseignement, je pense que nos dirigeants, nos gouvernants doivent comprendre qu'il y a énormément d'étudiants. Et le peu des infrastructures qui sont mises à leur disposition ne peut pas arranger la situation. Alors, quand vous parlez d'amphithéâtre, il y a un amphithéâtre, mais entrer dans cet amphithéâtre, vous verrez que ceux qui sont arrivés à 6h du matin, ils ont de la place. Mais ceux qui arrivent une heure après, alors que le cours doit commencer dans 4h de temps, ils n'ont même pas de place. Alors, tous ces problèmes sont là. Et après, quand vous essayez d'analyser cette situation, vous regardez que ceux qui sont censés gérer ce service-là, ceux qui sont censés encadrer pour que ça fonctionne, eux également, on a l'impression que pour eux, ça ne représente rien. C'est-à-dire que la responsabilité n'y est pas. Moi, je ne comprends pas comment on peut gérer un centre universitaire, un centre des œuvres universitaires, sans avoir un budget annuel. Mais en cours de l'année, on vous dit que les commandes n'ont pas été honorées parce qu'il y a tel problème. Mais ça ne se comprend pas, moi, je ne sais pas.
Honnêtement,
je crois que...
Docteur, que les étudiants tchadiens ont une bourse d'études?
Non, actuellement, il n'y a pas de bourse. La bourse fait partie des mesures qui avaient été révisées par l'ancien chef de l'État parce que on subissait la crise du pétrole il y a de cela 4 ans. Donc on avait réduit les trains de vie de la plupart de tous les citoyens. Et les salaires avaient été diminués, les bourses avaient été supprimées, les avantages de certains postes avaient été supprimés. Donc jusqu'à présent, la bourse n'a pas été réhabilitée. Mais je pense que ça devrait être réhabilité parce que étudier au Tchad, par exemple, sans bourse, je vous assure que c'est très difficile. Parce que comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de bibliothèque. Et les infrastructures modernes telles que l'accès à Internet et tout ça, franchement, ça demande de l'argent.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur les conditions d'apprentissage au Tchad, docteur. Au revoir. C'est une situation un peu chaotique, mais au Bénin, c'est plutôt la catastrophe si on s'en tient à ce que dit Jacques Sogegbe. Bonsoir, Jacques.
Oui, bonjour, madame.
Alors, vous parlez de catastrophe dans votre pays. Pourquoi?
Oui, bonsoir, madame. Je vous remercie. Pour commencer, je vous dis que tout a commencé depuis 2016, depuis que le gouvernement actuel est arrivé au pouvoir. D'abord, à l'entame des conditions, c'est que les bus surtout se prit pas des déplacements des étudiants a été bloqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'étudiants qui ont laissé les amphithéâtres jusqu'à maintenant. En plus, l'octroi de bourse, les conditions d'octroi de bourse ont changé. Avant, on nous disait, quand vous avez une telle moyenne, quelle que soit la personne, le type de personne, quel que soit son rang social, si vous avez une telle moyenne, vous avez votre bourse. Maintenant, actuellement, sous le nouveau gouvernement, les conditions d'octroi de bourse ne sont plus les mêmes. Il faut d'abord commencer par étudier le dossier, ou bien on cible un certain nombre d'étudiants à qui il faut octroyer les bourses d'études. Tout ça, ça réduit le nombre de scolarités par rapport dans les universités. En plus de ça, il y a aussi l'effectif pétrolique qui ne favorise pas l'étude effective des étudiants, les conditions dans lesquelles les étudiants étudient dans les universités. Par exemple, pour une amphithéâtre de 1000 places, par exemple, on peut y retrouver 16 000. On peut engouffrer 16 000 étudiants, voire 15 000, 14 000 étudiants. Et tout ça, ça frustre certains et ils laissent les cours jusqu'à ils attendent la fin de l'année pour venir aux sessions pour composer.
Alors Jacques, excusez-moi, oui, est-ce qu'il y a des conditions d'attribution de bourse au Bénin? Vous les connaissez?
Les conditions d'attribution de bourse, avant, si vous avez une moyenne donnée, on vous attend directement votre bourse. Bien maintenant, actuellement, sous prétexte que les moyens financiers ne sont pas disponibles ou que, encore, nous ne sommes pas, le pays est un pays sous-développé, il faut commencer par réduire les choses, il faut commencer par réduire l'octroi des bourses il faut économiser l'argent dans la dette de l'État, donc il faut commencer par réduire les trucs. Donc on cible un nombre dans chaque année, il faut dire tel nombre d'étudiants qui doivent avoir la bourse cette année ou l'année prochaine, quelque chose du genre. C'est ce qui facilite souvent certains étudiants à s'emmerder, sinon ils laissent carrément les cours et ils ne vont plus à l'école.
Êtes-vous étudiant?
Oui, j'étais étudiant à cause de ces conditions-là. J'ai laissé depuis. J'ai tenu la licence depuis 2016, mais je n'ai pas pu faire parce que les conditions-là ne me favorisaient pas.
Et il n'y a aucune aide de la part du ministère de l'Enseignement?
Actuellement, ce qui se passe maintenant, il faut souvent avoir un père sur le pommier pour ne pas manger des pommes vertes. Donc, c'est quelque chose qui, personne ne vous connaît. Personne ne vous connaissait et que vous voulez d'aide, tout ça, il faut souvent passer par des personnes intermédiaires pour atteindre le ministère. Donc,
Madame. Oui, vous faites partie des gens qui ont dû abandonner les études par manque de soutien financier. Qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement puisse faire?
Dans ces conditions, le gouvernement doit laisser son prétendu pacte dont il parle, programme d'action du gouvernement, qui coûte d'ailleurs financièrement les étudiants. Et si vous voyez, quelque chose que un État doit faire sur une période de 50 ans, et que l'actuel gouvernement préfère le faire en une période de 10 ans. Ça fait que les conditions sont tellement difficiles. Actuellement, nous ne sommes pas dans de bonnes conditions. Non, les gens qui ont continué les études n'étudient pas dans de bonnes conditions parce que on est en train de réduire les économies, le financement pour que l'État atteigne son objectif. Maintenant, ce que je souhaiterais que l'État fasse, l'État n'a qu'à faire comme l'ancien gouvernement qui était passé, par exemple, ce qui a commencé de 2016-2006 jusqu'en 2015. Donc lui, en son temps, tout le monde était favorisé et il n'y avait pas de distinction, par exemple. Donc j'aurais souhaité que les choses se fassent comme avant.
Merci beaucoup, Jacques. Nous vous souhaitons bonne chance dans ce que vous avez entrepris à la place des études. Nous retournons en RDC où nous attend Christian Politassi, plus précisément dans la capitale congolaise, Kinshasa. Bonsoir, Christian.
Bonsoir Malik, bonsoir aux auditeurs de la vie africaine.
Alors apparemment vous êtes dans un pays qui fait la différence parce que le gouvernement a mis à la disposition des étudiants quelques centaines de bus et aussi Alphonse Mbouaki a mentionné la gratuité de l'éducation primaire.
Exactement Malik, pour bien aborder cette question, je voudrais l'aborder sous deux volets. Le premier volet concernant les efforts que doit fournir le gouvernement, le deuxième volet sur les efforts de la communauté internationale. Alors, concernant les efforts du gouvernement, avec la dotation de celui, c'est vraiment un grand pas. Mais finalement, ce que nous voudrons un peu plus, c'est qu'il faudrait vraiment une collaboration un peu plus stable entre le gouvernement et les corps scientifiques. Cela va nous permettre justement d'entendre les résiliences. Mais aussi, cela va aboutir justement à l'élaboration d'un planning indicatif. Et ce planning va nous permettre d'éviter l'omniprésence de nombreuses grèves, parce qu'aujourd'hui, les corps académiques sont aujourd'hui en grève et cela ne permet pas la bonne évolution du secteur de l'enseignement. Et en tout cas, pour nous, ce planning doit également s'apparenter sur la construction des établissements supérieurs, mais aussi des écoles. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre des mesures sans pour autant organiser même le secteur. Parce qu'il faut organiser l'accueil des nouveaux étudiants. Alors, s'il n'y a pas assez de locaux, cela va poser problème en termes de son nombre. au-delà de ce nombre, il y a encore cette question sur la formation de personnel enseignant. Il y a plusieurs personnes, en tout cas, à qui je campagne de TICAP. Alors, il faudrait vraiment, soit recycler les personnels enseignants ou encore former les enseignants qui existent déjà. Et il faudrait penser aussi à la dotation de la bibliothèque, mais aussi des outils informatiques. On ne peut pas aboutir à un résultat si les étudiants, les apprenants ne savent pas configurer les bibliothèques pour avoir justement quelques notions et puis accroître leurs connaissances. Il y a un autre élément dans l'île que j'ai cité, la scolarisation même des prix. Vous avez suivi, je crois, Jacques qui a dit qu'il a eu un terrain pour ses actifs positifs par manque de moyens. Alors, si on arrivait justement à stabiliser le prix, et cela va nous déboucher tout simplement à ce que nous appelons la gratuité. Et cette gratuité sera totale. Par exemple, si vous diminuez les frais académiques et vous permettez de laisser les étudiants verser même des supports, vous voyez que les étudiants pourront, tant bien que mal, chercher à avoir cette formation au lieu de laisser les choses telles qu'elles. Et au plan international maintenant, il faudrait vraiment une collaboration un peu plus, je dirais, c'est-à-dire qu'il faudrait accorder à un certain nombre de financements techniques et une assistance technique et financière. Cela va permettre à l'enseignement aux étudiants africains d'atteindre un niveau de standards internationaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a rarement des universités africaines qui, en tout cas, se retrouvent dans les top 10 et top 20 des meilleures universités dans le monde. Parce que, tout simplement, le processus ou encore la formation laisse à désirer. Or, s'il y a cette assistance venant de l'étranger, venant de nos partenaires, cela va nous permettre d'atteindre ce niveau et du coup, il y aura, en tout cas, le même sera réduit à la baisse. Les étudiants africains n'iront pas nécessairement en Europe pour aller étudier. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire, car, en tout cas, pour les pays africains, en Amérique, atteindre ces objectifs à brève échéance, c'est vraiment très très difficile, étant donné que les moyens qui sont mis à la disposition ou les moyens que le gouvernement utilise, mais aussi les méthodes utilisées, ne permettent pas à ce que ces objectifs résilients soient réalisés. Mais avec l'aide de la volonté du gouvernement, mais aussi de nos partenaires, nous pouvons facilement atteindre ces paris et du coup, l'enseignement en Afrique sera vraiment meilleur plus que hier en Amérique.
Merci beaucoup, Christian. J'ai une question pour vous. Docteur Otiad a décrit une situation catastrophique. Jacques Sogegbe au Bénin parle de la catastrophe. Si vous deviez évaluer la situation de l'éducation RDC, quel terme employeriez-vous?
Bon, en tout cas, l'éducation aujourd'hui, s'il faudrait comparer l'éducation de ces jours avec celle de 60, 70, voire 90, en tout cas, l'éducation a perdu un petit peu un peu d'équilibre, entre autres parce qu'il n'y a plus du sérieux. Et au-delà du sérieux, il y a encore cette question de corruption qui, en tout cas, a fait son bon nombre de chemins et la formation, surtout les cadres qui doivent continuer à assurer l'enseignement, ont des problèmes. Donc, parce que en d'autres termes, nous devons dire que parce que le gouvernement ne met pas en tout cas le moyen de l'amener dans la PAC.
D'accord, nous vous remercions. Merci beaucoup, Christian. Nous avons notre dernier intervenant qui nous attend au Bénin. Nous allons donc retourner dans ce pays. Il est à Abomey, Calavi. C'est Vincent Sehounou. Bonsoir, Vincent.
Oui, bonsoir, chère la journaliste.
Alors, qu'avez-vous à dire sur cette question de l'éducation dans votre pays, notamment?
Oui, effectivement, dans mon pays, il y a de cela 20 ans, vraiment, ils ont senti la gratuité de l'école parce qu'au temps du régime du fait général Maty Kérékou, en passant par Dr Thomas Boni-Yayi. Même au secondaire, il faut comprendre que les élèves de la classe de la 6e, 6e, 5e, 4e, 3e, CFI-là, ne payent rien comme contribution. Donc, parce qu'il applique comme ça la loi qui demande que la gratuité de l'école doit être suivie progressivement. Mais à l'université, vous comprenez, la vie des étudiants à l'université, vraiment au Bénin, est très précaire. Vous voyez un amphithéâtre qui va du gouvernement.
Vous avez 30 secondes.
750 étudiants. Vous voyez, à la fin, il faut comprendre que c'est 2000 étudiants qui se sont rassemblés, qui se rassemblent dans un seul amphithéâtre. Vous voyez, tout ça là, c'est des choses à régulariser. Aujourd'hui, la vie des étudiants, ça.
Merci beaucoup, Vincent. On est vraiment triste de vous laisser partir, mais c'est le temps, il ne s'arrête pas. Donc, merci d'avoir assisté à cette émission. Devant ce micro, Nanit Kalani, à la technique Cornelius Ténor, à la réalisation Fatou Alimassi. Bonne suite sur nos...